Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée par Samuel Bernard, mais aussi Marguerite Caton et Maëlys André, réalisée par Benjamin Hu et à la technique ce matin, Jean-Guilain Meige. Second volet de notre série de portraits, quatre destins singuliers, quatre parcours pris dans les méandres de l'histoire avec un grand H. Hier, nous parlions de Sergueï Skripal, l'agent double au cœur des tensions Est-Ouest. Demain, nous aborderons la mémoire de Daphne Caruana Galizia, cette journaliste assassinée alors qu'elle enquêtait sur un vaste réseau de corruption. Et enfin, jeudi, nous parlerons de Nadia Mourad, ancienne prisonnière de Daesh, aujourd'hui prix Nobel de la paix. Mais ce matin, direction Hong Kong, retour sur la révolte des parapluies avec Joshua Wong.
Je m'appelle Joshua Wong, j'ai 18 ans. Je participe à des mouvements sociaux depuis 4 ans déjà, depuis que j'ai 14-15 ans. Et l'année dernière, je me suis battu pour la démocratie à Hong Kong en participant à la révolte des parapluies. Même si nous sommes en état de droit, et malgré la liberté d'expression, ça ne sera pas facile de se battre à l'avenir. Mais je crois qu'avec la révolte des parapluies qui s'est mobilisée pendant presque 80 jours, les étudiants, la nouvelle génération, nous sommes déterminés à nous battre pour notre avenir. Mon ambition ne va pas au-delà de ces expériences que je vis depuis le lycée. Je pense que ce que je fais est utile et j'apprécie d'avoir des responsabilités. Je suis un citoyen de Hong Kong, je suis né et je vis à Hong Kong, j'aime ce pays. Je suis toujours optimiste. Ce n'est pas le moment pour moi de décider si je devrais être le chef de l'exécutif. Je ne pense pas en avoir les compétences. Mais je pense être en mesure de me battre pour la nouvelle génération.
C'est un jeune homme qui donne l'impression d'être à peine sorti de l'adolescence. Avec sa coupe au bol, ses lunettes noires et son petit air de premier de la classe, Joshua Wong n'a pas le physique d'un leader capable de faire trembler le super-État chinois. Et pourtant, ce jeune Hongkongais est devenu l'une des bêtes noires du régime. Depuis 2014, il est l'un des visages et l'un des porte-paroles de la révolution dite des parapluies. Une vaste mobilisation pour protester contre une tentative de Pékin de prendre la main sur les institutions démocratiques locales. On se souvient des images de cette foule occupant les places et les artères de la ville durant près de 80 jours. Alors 4 ans plus tard, de nombreux militants du mouvement sont en prison ou en cours de procès. Joshua Wong, lui, a été finalement libéré après plusieurs mois de prison. Il attend son prochain procès fixé pour le 3 avril 2019. En attendant, il a créé son parti Démocisto et entend bien poursuivre le combat. Alors que nous dit cette histoire, l'histoire de Joshua Wong, de la résistance d'un petit territoire au cœur même de l'Empire chinois? Que nous dit-elle des aspirations démocratiques de toute une génération? Quels échos, quelles filiations avec d'autres mobilisations, d'autres révolutions dans la région? Jean-Philippe Béja, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, directeur de recherche aux séries à Sciences Po. Vous êtes l'auteur notamment de l'ouvrage « À la recherche d'une ombre chinoise, le mouvement pour la démocratie en Chine 1919-2004 », paru au Seuil en 2004. Et à vos côtés, Dorian Malovic, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service Asie au quotidien La Croix. Vous étiez correspondant à Hong Kong, c'était de 87 à 91. Et on vous doit « Hong Kong, un destin chinois », c'était paru aux éditions Bayard déjà en 97. 97, année cruciale, hein, puisque c'était l'année
prémonitoire, parce que destin chinois, c'était quand même une sensation de se dire que Hong Kong allait probablement se rattacher. On ne savait pas sous quelle forme, de quelle manière, mais là, on sent qu'elle est absorbée.
Alors donc voilà, 97, l'année donc du rattachement de Hong Kong à la Chine. Alors, donc, on s'intéresse ce matin à la figure de Joshua Wong et peut-être est-ce qu'on pourrait retracer un petit peu son parcours. Alors, il n'a que 22 ans, c'est un très jeune homme. Ce qu'on sait, c'est qu'il vient de la classe moyenne, que ses parents sont de religion anglicane. Qu'est-ce qu'on peut établir d'autre de ce parcours de ce jeune homme de 22 ans, Jean-Philippe Béja?
Ça fait quand même bizarre de dire que un des personnages qui a marqué l'histoire fête aujourd'hui ses 22 ans. Il a commencé à participer à la politique en 2010, donc il avait à l'époque 14 ans. Il était au lycée et il s'est battu contre... Alors, il était dans une école protestante, hein, vous avez dit, son père est anglican. Et d'ailleurs, son père s'est distingué par des positions qu'on pourrait qualifier d'extrêmement réactionnaires, notamment sur les LGBT et sur un certain nombre de phénomènes sociétaux, dirons. Et il semble que Joshua, bien qu'il soit lui-même... croyant, et dès son plus jeune âge, pris son indépendance de pensée. Hein, et disons que en 2010, donc, il est alors au lycée, à peine, enfin au middle school, et le gouvernement de Hong Kong lance un grand mouvement d'éducation patriotique. Alors déjà, dans son école, dans son école protestante, qui est une école importante, il va commencer à prendre la tête d'un mouvement protestant contre ce qu'on appelle déjà le lavage de cerveau. Et ce mouvement, donc, commencé quand il avait 14 ans, va aboutir lorsqu'il aura 16 ans, en 2012. Ce mouvement contre l'éducation patriotique va s'étendre à l'ensemble du territoire. On va assister à de très fortes protestations sur People's Square, donc devant le siège du Parlement de Hong Kong, du LegCo, en 2014, avec une énorme sit-in, une grève de la faim, et finalement, le recul du gouvernement. Donc vous parlez de quelqu'un qui a 16 ans, a déjà fait reculer le gouvernement avec, il avait créé un mouvement qui s'appelait Scholarism et qui était donc destiné à lutter contre le lavage de cerveau imposé par le Parti communiste chinois à travers ces agents du gouvernement de Hong Kong. Et c'était déjà un moyen de montrer cette identité de Hong Kong, qui est quelque chose d'extrêmement important depuis environ une quarantaine d'années.
Dorian Malovic, je vous vois opiner du chef. Est-ce qu'à ce moment-là, vous, donc déjà en 2010, et puis donc en 2012, au moment de la victoire des opposants, enfin des lycéens contre ce programme patriotique, est-ce qu'à ce moment-là, vous déjà, Dorian Malovic, vous voyez émerger cette figure, ce jeune homme?
Écoutez, ce qui était frappant, enfin, ce qui est frappant, c'est que Joshua, il est tellement jeune, et lorsqu'on connaît Hong Kong, comme Jean-Philippe connaît cette ville, qui était quand même apolitique, enfin je veux dire qu'il n'avait pas de conscience politique majeure avant 89, avant Tiananmen, le massacre de Tiananmen à Pékin, vous étiez dans une colonie où vous aviez les Britanniques d'un côté, minoritaires, vous aviez les Chinois, ils faisaient leurs affaires, vous aviez un état de droit, une justice, tout était bien rodé, si vous voulez, c'était pas une colonie qui esclavagisait les gens, enfin qui les écrasait. Et finalement, la grande prise de conscience, et d'ailleurs Joshua, quand je l'ai rencontré le mois dernier, me disait, ah, vous étiez en 89 à Hong Kong, à la manifestation où il y avait 1 million d'habitants dans les rues le lendemain du massacre de Pékin en 89, et mes parents étaient dans cette manifestation. Donc c'était aussi, à la limite, ses parents avaient presque l'âge de Joshua à ce moment-là, et c'est le début. Et ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que ça s'est quand même transmis sur la génération qui a suivi. Mais entre deux, il y a un peu un gap, quoi. Il y a un peu un vide. Mais que lui émerge, c'est assez fascinant. Mais ça reflète aussi quelque chose de Hong Kong, quoi, de ce dynamisme de la jeunesse.
Vous voulez dire que quelque part, il est représentatif d'une sorte de transmission de la mémoire qui s'est opérée entre la génération qui a vécu 89, qui a vécu de loin les événements de la place Tiananmen, et sa génération à lui, puisqu'il apparemment cite cet événement, je ne sais pas s'il s'en réclame, mais il y a des liens en tout cas, Jean-Philippe Béja.
Oui, oui, absolument, je crois que c'est... Moi je dirais, je ne suis pas tout à fait d'accord, je ne pense pas qu'il y a eu un gap entre 89 et 2012. Je crois que, justement, 2003 par exemple, les grandes manifestations contre l'article 23, l'article contre la subversion, où 500 000 personnes descendent dans la rue, cette identité de Hong Kong, elle commence à émerger en 74, et effectivement elle se cristallise très fort en 89, avec la peur que Hong Kong connaisse le slogan à l'époque, c'était le aujourd'hui de Pékin sera le demain de Hong Kong. Et donc il fallait éviter ça. Et cette identité politique, on a une communauté politique qui émerge à ce moment-là et qui va durer. Alors malgré le retour en 97 où tout le monde se glorifie et serait extrêmement extrêmement heureux du retour à la mère patrie. Les Hongkongais, à chaque fois que leur identité politique est menacée, se descendent dans la rue. Et puis, aux élections, les élections au suffrage direct font toujours remporter 60% des voix au Parti démocratique. Donc, simplement, on s'imaginait pas que des gens si jeunes puissent aussi se mobiliser de cette façon. Hein, la génération des démocrates, ils avaient commencé à 20 ans aussi, les Alberto et les autres, en 74, ils avaient 20 ans ou 25 ans, mais ils étaient déjà plus vieux. Or, on se dit, ceux-là, ils sont nés, c'est la génération sur laquelle le parti compte. Ils sont nés en 97.
Ils n'ont jamais connu Hong Kong,
la colonie.
Autrement que sous dans le giron chinois.
Voilà, et donc si vous voulez, Joshua Wong, ça devrait être justement le symbole même de cette nouvelle génération qui est entièrement chinoise, qui a été formée par après la rétrocession. Et voilà, dès qu'il a 14 ans, ce type descend dans la rue, se bat contre justement l'espèce de volonté de transformation d'éduquer cette génération pour qu'elle n'ait plus cette spécificité hongkongaise. Et il s'en rend compte tout de suite.
Vous pouvez peut-être nous préciser quelle était la nature du combat déjà en 2010-2012. Vous avez donc évoqué un programme scolaire. Et qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ce programme scolaire qui était donc imposé, alors si j'ai bien compris, par les autorités locales, mais derrière c'était la main de Pékin. Qu'est-ce que vous avez parlé de lavage de cerveau, mais quel était le contenu de ce programme scolaire qui devait donc entrer en vigueur dans les écoles primaires et secondaires?
C'était eux qui parlaient de lavage de cerveau. J'ai simplement répété ce qu'ils disent. Si vous voulez, l'idée c'est, le Parti communiste dit toujours aux dirigeants de Hong Kong, les Hongkongais sont ignorants de l'histoire. Il faut donc leur enseigner l'histoire. À Hong Kong, dans les cours d'histoire, on parle du 4 juin 89, on parle du massacre du 4 juin. Voilà. Alors ça, c'est une chose qui est absolument intolérable. Donc, on dit, il faut absolument donner une éducation patriotique. Si on traduit exactement, c'est d'ailleurs une éducation civique. Mais cette éducation civique, c'est montrer à quel point le Parti communiste a permis au peuple chinois de se lever.
Ouais. Mais, Dorian Malovic.
Mais je complète en disant, c'est lavage de cerveau, c'est plutôt une réécriture de l'histoire dans les livres de collégiens et de lycéens à Hong Kong, comme elle se fait sur le continent depuis toujours. Enfin, je veux dire, on réécrit l'histoire comme ça nous arrange, comme ça arrange le parti. Et effectivement, que Tiananmen soit dans les livres d'histoire à Hong Kong, que la grande famine de 61, la révolution culturelle ait fait 45 millions de morts, ça aussi, c'est pas admissible, c'est pas la bonne lecture. Et puis, Xi Jinping, depuis 2012, l'autoritarisme de plus en plus fort, bah, tout ça ne doit pas entrer dans les écoles. Il y a aussi le drapeau. Après, mais si vous voulez, c'est aussi une évolution où on voit bien que la Chine, l'hymne national, le drapeau, les couleurs tous les matins, il y a une résistance des profs quand même, mais c'est vrai, enfin c'est je dirais les éclairer, mais en même temps on sent bien que progressivement la résistance, moi ce que je sens aujourd'hui, hein, c'est juste pour faire ce passage aujourd'hui, c'est que quand je disais que ça s'émousse, c'est-à-dire chaque année, le seul endroit en Chine où on pouvait manifester pour commémorer Tiananmen le 4 juin, c'était à Hong Kong, ça mobilisait encore des foules, mais ces dernières années, ça devenait de plus en plus difficile. Alors, dans les chiffres de rassemblement à Causeway, il y avait moins de monde, la motivation était plus compliquée. Faut dire aussi que plein de Hongkongais sont partis aussi. Hein. Je veux dire, la mobilisation, elle est pas, l'opinion publique, elle est pas 95% derrière tous les démocrates. C'est-à-dire penser que Hong Kong serait dans son entièreté anti-continentale, c'est pas tout à fait vrai non plus. Et vous avez des démocrates qui sont pas non plus. Et ça, c'est pas pour prendre le contre-pied, mais les démocrates sentent aussi qu'ils sont pas très bien organisés non plus. Il y a des élections, c'est compliqué, ils n'arrivent pas à les gagner systématiquement. Il y a toujours, comme vous dites, 60% de gens qui votent. Le Parlement n'est pas complètement élu au suffrage universel direct. C'est vrai que le combat est inégal, mais ça s'émousse, c'est difficile. Et chaque année, quand on y retourne, on sent, dans l'esprit des gens, que ça devient de plus en plus dur et que c'est un peu désespéré.
Les étudiants ont réussi à dialoguer avec le gouvernement. Nous espérions que quelque chose pourrait être réalisé grâce aux discussions. Il est regrettable que les négociations se soient arrêtées après la première tentative. Personne ne sait si le résultat aurait été meilleur si les discussions s'étaient poursuivies. C'était pour nous une plateforme de lutte pour des changements dans le système politique. C'était l'occasion pour nous tous d'obtenir des résultats. C'était un espoir.
Alors cette voix qu'on vient d'entendre, c'est celle du révérend baptiste Chu Yuming, c'était en 2014. Il est souvent cité par Joshua Wong comme un mentor. J'en reviens du coup à cette idée de la filiation et de la tradition peut-être protestataire dans laquelle s'inscrit la génération de Joshua Wong. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui était Chu Yuming ?
Chu Yuming.
Pardon.
Chu Yuming est donc un pasteur baptiste, mais qui est né en Chine, qui est venu en Chine quand il était très jeune, et qui a fait les travaux les plus durs quand il est arrivé. C'était un enfant tout seul, il habitait tout seul, enfant, et il s'est hissé à la force du poignet, il a étudié, il est devenu pasteur, et il a été extrêmement proche de Sitowa, qui est l'un des principaux fondateurs du mouvement pour la démocratie à Hong Kong, qui est un syndicaliste enseignant, qui est fondateur du Parti démocratique et qui surtout va être le fondateur de l'alliance de soutien au mouvement pour la démocratie en Chine pendant le mouvement de 89. Et Chu Yuming est la personne qui a fait tout le travail concret de la fameuse opération Yellow Bird, oiseau jaune, qui a permis d'exfiltrer les militants du mouvement démocratique chinois vers Hong Kong et d'ailleurs ensuite vers la France. Alors, c'est un personnage qui représente véritablement cette continuité. Il est né en Chine. Donc c'est un patriote chinois, largement. Il a été aux côtés des fondateurs du Parti démocrate, et il a toujours été de toutes les manifestations, de toutes les organisations. Il a aidé le mouvement démocratique chinois, et il est l'un des trois de Occupy. C'est-à-dire, il y a deux professeurs, un professeur de droit, Benny Tai, et un professeur de sociologie, Chan Kinman, mais Chu Yuming est aussi l'un de ses fondateurs. Et il représente justement la continuité de ce mouvement démocratique et de cette identité hongkongaise. Donc, le fait que Joshua Wong, évidemment, qui est un jeune, qui a été très jeune dans les commémorations de Victoria Park, donc de soutien au 4 juin, il faut bien comprendre que cette commémoration de Victoria Park, c'est pas...
Alors, pour préciser, pour que tout le monde comprenne bien, les commémorations de Victoria Park, c'est donc les commémorations du massacre de la place de Tiananmen, qui se tiennent chaque année à Hong Kong et qui sont particulièrement importantes pour les Hongkongais.
Qui en 2009 rassemble 200 000 personnes. Et depuis, pas moins de 150 000. C'est quand même un truc énorme. Oui. Mais je dirais que c'est un mouvement hongkongais. Pourquoi ? En Chine, on ne peut pas parler du 4 juin. La seule mention de 6-4 vous fait éliminer vos tweets de la scène.
C'est-à-dire qu'on ne peut même pas écrire chiffres 6-4 sur Internet. Dire,
non, absolument. Notamment au moment du 4 juin. Donc, mais en revanche, c'est à ce moment-là, le 4 juin 90, lors de cette première commémoration à Victoria Park, qu'on a vu véritablement émerger cette identité politique hongkongaise. Et depuis chaque année, cette célébration qui se fait avec des bougies d'ailleurs et qui rappelle à mon avis énormément la fête de Zhongqiujie, la fête de la mi-automne qui est environ au mois de septembre, qui est l'une des plus belles fêtes hongkongaises où tout le monde se rend à Victoria Park avec des bougies en famille, etc. Et si vous regardez cette commémoration du 4 juin 89 à Victoria Park aussi, on a cette impression d'avoir une communion hongkongaise et une communion autour des valeurs de la démocratie et de la démocratisation de la Chine.
Alors, je fais un retour, enfin plutôt une avancée dans le temps. 2014, la révolte des parapluies. Donc, on s'en souvient, des milliers de Hongkongais descendent à ce moment-là dans la rue pour protester contre un projet de Pékin de changer le mode d'élection du chef exécutif local. C'est vécu comme une véritable atteinte ou mise sous tutelle presque de la démocratie. Et c'est à ce moment-là qu'on retrouve donc Joshua Wong. Il devient assez rapidement un des leaders du mouvement. Mais justement, je voulais vous demander, est-ce que leader, c'est un bon terme? Est-ce que lui-même, vous qui l'avez rencontré, Dorian Malovic, est-ce que lui-même se considère comme un leader ou comme un militant parmi d'autres ?
Oh, c'est un militant, c'est un porte-parole, mais lui, il est beaucoup plus modeste que ça. Enfin, quand on le rencontre, on le croise, on peut lui dire bonjour dans la rue. Enfin, on le voit, quoi. Enfin, je veux dire, il est pas inaccessible. On sent qu'il a pris un peu de bouteille, hein, depuis 2014. Il sait beaucoup, d'abord, il parle beaucoup mieux anglais qu'il y a quelques années. Mais il se met pas en position d'être, quand il disait, je vais pas être le nouveau chef de l'exécutif, etc. Lui, ce qu'il vit, c'est, en ce moment, c'est que, depuis 2014, il avait suspendu ses études. Il avait arrêté parce que il était dans le mouvement. Là, il vient de se réinscrire en septembre. Là, il attend son jugement. Enfin, il est en liberté provisoire. Enfin, je veux dire, on lui a confisqué, enfin, son passeport. Il peut pas voyager à l'extérieur. Il a pas pu aller à Washington la semaine dernière pour retirer un de ses prix de droits de l'homme. Ce sont deux autres qui sont allés à sa place. Donc, il est un peu coincé. Il se dit, je ne sais pas, moi aussi, je vais peut-être aller en prison. Moi aussi, je ne pourrai plus jamais peut-être me présenter à une quelconque élection. Donc alors on voit qu'il est le fils spirituel, par exemple, d'un Benitaï, par exemple, c'est l'autre professeur d'université dont on parlait. Les trois vétérans qui sont d'ailleurs en procès depuis 20 jours, qui s'est arrêté la semaine dernière. Et on attend le jugement pour avril. Eux aussi peuvent être condamnés à la prison, mais ça, je dirais, ce sont les racines. Ce sont eux qui ont lancé le Occupy Central, c'est le Occupé Central, le quartier des affaires. Avec paix et amour, hein, with peace and love, hein, c'était ça le début. Et les étudiants, et Joshua a rebondi sur ça, et je veux dire, le mouvement étudiant a donné cette dynamique qui a fait que trois quartiers spécifiques de Hong Kong ont été occupés pendant près de 90 jours, en fait. Donc ça, c'est... Et lui, on le voyait partout. Il y avait chaque soir des événements, des discours, un peu partout. Donc là, on sentait qu'il y avait, évidemment, une bagarre très forte contre l'oppression. Mais ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'était au terme de cette bagarre et de cette mobilisation jeune, le gouvernement n'a rien voulu entendre, n'a rien cédé. Un pseudo-dialogue avec des étudiants, avec Carrie Lam, la chef de l'exécutif, catholique d'ailleurs en passant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit toujours les écoles chrétiennes, protestantes, etc., d'où sortent les élites. Et finalement, quelque part, c'est un sacré échec, en fait. Enfin, et ils ont tous dû digérer cet échec en disant, bon, maintenant, finalement, bon, c'est pas tout à fait un échec parce qu'on a une conscience politique qui passe maintenant dans les jeunes générations, mais on va changer de nature, on va se battre autrement.
On va prendre le temps de faire le bilan de la révolte des parapluies quatre ans plus tard. Je reviens encore un peu sur Joshua Wong. C'est vrai que j'ai retrouvé un papier de Paris Match en 2014 et le journaliste, le reporter sur place le décrivait ainsi. Il disait, c'est l'ado qui défie la Chine impériale, c'est le surdoué de la politique. Qu'est-ce que vous pensez, Jean-Philippe Béja, de cette manière de le décrire? Est-ce que bon, c'est la force du récit médiatique un peu obligé, ou comment est-ce que vous voyez aussi sa place? Est-ce que c'est un leader? Il paraît que c'est un excellent orateur et qui sait prendre la parole en public et devant les foules.
Ça rappelle beaucoup Paris Match. Disons que moi, j'ai été très impressionné par la compétence et l'assurance de Joshua Wong. C'est un garçon qui est extrêmement structuré intellectuellement, qui sait très bien s'adapter à ses interlocuteurs. C'est un très bon orateur en public et c'est un excellent objet d'interview aussi. Il sait très bien, je dirais pas embobiner, mais en tout cas se faire aimer par la personne qu'il interviewe. C'est un garçon très intelligent, mais très structuré et très convaincu. Alors leader, si vous voulez, le mouvement, il faut bien voir que ce mouvement est un mouvement sans leader au départ. Les médias adorent avoir des porte-paroles. Donc, dans une certaine mesure, Joshua Wong a été aussi formé par les médias. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà lancé ce mouvement de scholarism qu'il avait emporté. C'était une victoire, n'oublions pas. Et là, maintenant, il arrive de nouveau. Alors, le mouvement des parapluies, il faut bien voir, les trois d'Occupy, d'abord, ça s'appelait Occupy Central, le quartier de Central.
L'occupation, c'est le quartier des affaires à Hong Kong.
Le quartier des affaires, l'un des quartiers des affaires. Oui. Mais ce n'est pas à Central qu'a été faite l'occupation. Ça a été à Admiralty, qui est aussi une autre partie du quartier des affaires. Et c'est pas anodin, ce que je veux dire. C'est que les gens de Occupy, les trois personnes de Occupy, que je connais assez bien, étaient absolument sûrs que ça durerait deux jours, qu'ils le feraient le 1er octobre, et que ce serait fini après ça. Or, ce qui s'est passé, c'est que à partir de la réponse, de l'interprétation par l'Assemblée populaire nationale de Pékin de la constitution de Hong Kong, c'est-à-dire l'interdiction, c'était, il devait normalement donner les modalités de l'élection du chef de l'exécutif au suffrage universel. Et là, ils disent, il faudra que les trois candidats soient sélectionnés par un comité nommé par Pékin. Ce qui est apparu à ces jeunes qui avaient cru un pays de système, comme une terrible trahison. Et moi, j'étais le 22 septembre 2014 à l'université chinoise de Hong Kong, et il y avait une dizaine de milliers d'étudiants qui se sont réunis et qui ont lancé la grève des cours. À partir de ce moment-là, c'est là que le mouvement a commencé à faire une grève des cours, et ils sont allés faire leurs cours juste devant le LegCo, le Parlement, dans le jardin autour, à côté d'Admiralty. Et ils occupaient Admiralty le 28 septembre, et ils ont dit, il y a eu des gaz lacrymogènes qui ont été lancés par la police, et à ce moment-là, ils ont dit, mais décrétez Occupy. Ils ont appelé les trois personnes qui n'étaient pas du tout dans le coup, et ils leur ont dit, maintenant, c'est le moment de lancer l'occupation. Et ils ont lancé l'occupation, qui a duré 79 jours, mais pas à Central, à Admiralty et dans deux autres quartiers de Hong Kong. Donc, si vous voulez, ce mouvement a été largement lancé par les étudiants. Et donc, Joshua Wong est arrivé, il était un peu, il n'était même pas étudiant à l'époque, il était encore au lycée, il a fêté ses 18 ans sur la scène d'Admiralty. Donc, il est arrivé et il était celui qui avait remporté une victoire. Et il fallait aussi avoir les trois d'Occupy. Zhu Yaoming, il a aujourd'hui 75 ans. Chan Kinman, il a bientôt l'âge de la retraite. Il y a que Benny Tai qui est pas très vieux. Mais donc, il fallait que cette nouvelle génération s'exprime. Et ils ont trouvé, alors c'était pas seulement lui, hein, il y avait aussi Zhou Yongkang, qui était le leader des étudiants, et aussi, justement, Joshua Wong, qui était le vainqueur de l'éducation patriotique.
Bon, mais au bout de 80 jours d'occupation, comment se termine le mouvement? Est-ce que c'est un échec? Est-ce qu'on peut le dire comme ça, dans le Malory? Qu'est-ce qui se passe au bout de 80 jours?
Concrètement, alors, faut se dire que quand on était là-bas, enfin, en tant que reporter, moi j'étais à Mongkok. Hein. Mongkok, c'était sur Kowloon, sur la péninsule, c'est un quartier très populaire, concentration démographique énorme, c'est l'âme de Hong Kong qui est à Mongkok, quoi. Ils occupaient la grande avenue Nathan Wong d'une partie. Pour des Occidentaux qui connaissaient pas Hong Kong, ce genre de manifestation, imaginez quand même 90 jours, pas de vitrine éclatée. Alors je vais dire, pas de violence, autre que les gaz lacrymo et des tensions entre les policiers qui ont monté. Mais quand vous voyez ça, enfin j'avais d'autres confrères qui étaient jamais venus là, leur expliquer que c'était la façon pacifique de manifester à Hong Kong. Quand il y a des manifs à Hong Kong, c'est organisé, c'est balisé, c'est autorisé, il n'y en a pas un qui déborde, enfin on s'exprime. Là, au bout de 90 jours, le gouvernement ne cède absolument rien. C'est-à-dire que, comme vous le disiez, le choix même des candidats limités à trois, ce ne se fera pas démocratiquement. Et le choix du chef de l'exécutif se fera par un comité électoral de 1200 personnes, pseudo-représentatifs de toutes les catégories professionnelles de la ville, mais qui sont en majorité pro-Pékin, évidemment. Donc là, on arrive au terme d'un processus qui a été quand même un coup de bambou sur la tête de tous ces jeunes, parce que ils pouvaient y croire quand même, mais là, ça a été d'une inflexibilité totale de la part de Pékin, et on est quand même, évidemment, Xi Jinping à Pékin est là, c'est-à-dire que là, il y avait plus de marge de manœuvre. C'était, non, ça ne se passera pas comme ça, et depuis, effectivement, ce que je disais tout à l'heure dans le gap, le fossé, c'est que, vous le disiez bien, il y en a qui ont 75 ans, le pasteur Cardinal Zen 80, Benny Tai plus jeune, mais entre eux et Joshua, à 22 ans, vous avez un gap. Vous n'avez pas une masse structurée de 45 ans. C'est ça aussi. C'est qu'on doit se reposer sur un jeune de 22 ans. Et quelque part, c'est une réalité.
C'est comme ça, vous, Dorian Malovic, que vous expliquez que le mouvement n'est pas abouti, qu'il n'est pas réussi à porter jusqu'au bout cette revendication de sauvegarder vraiment les règles démocratiques propres à Hong Kong.
Mais c'est compliqué de se battre parce que la loi fondamentale qui est la mini-constitution devait promettre que le processus démocratique après la rétrocession évoluerait vers un régime totalement démocratique avec un système électoral direct à terme. Et ça, la parole n'a pas été tenue, et finalement aujourd'hui, on voit bien que il n'y a pas de la part de Pékin le moindre signal de voir Hong Kong devenir démocratique. Donc ça, c'est ça la réalité. Après, je ne juge pas, je ne critique pas, ce que je veux dire, c'est pas facile à Hong Kong, qui n'avait pas de conscience politique avant 89, de se structurer de la même façon que des pays occidentaux et démocratiques comme les nôtres, de structurer des partis qui soient suffisamment solides dans un univers de business et de commerce qui dépend de la Chine pour pouvoir avoir quelque chose d'assez fort pour faire face.
Jean-Philippe Béja, qu'est-ce qui reste selon vous aujourd'hui chez les jeunes générations, mais pas uniquement, de l'aspiration démocratique et de cet élan quand même assez impressionnant qui était né en 2014, 4 ans plus tard, alors que les revendications n'ont pas abouti. Qu'est-ce qui reste de ça dans la société? Est-ce que peut-être c'est une frustration peut-être qui reste?
La frustration sans aucun doute, mais avant ça, je voudrais quand même faire remarquer que les élections de 2016 au Legco ont porté le plus grand nombre de députés démocrates ou localistes ou même indépendantistes au Parlement. Donc avec, encore une fois, 60% des voix. Donc, du côté de ce que pensent...
Les Hongkongais restent foncièrement attachés à leur candidat démocrate.
Non, les Hongkongais sont fortement attachés à l'espérance démocratique et à la possibilité de résister, de défendre leur identité face à la volonté du rouleau compresseur chinois. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est absolument clair. Le seul problème, c'est que, comme le disait Dorian justement, les partis sont relativement divisés, mais je ne suis pas d'accord sur le passage des générations, car parmi les élus justement de 2016, il y avait une grande partie des gens qui avaient 40 ans. Je ne crois pas qu'il y ait de rupture à l'intérieur du camp pro-démocrate. Ce qui se passe en revanche, c'est une rupture aujourd'hui avec les jeunes sur l'idée de... Hong Kong ne sera jamais démocratique tant que la Chine ne le sera pas, et d'autres, les jeunes, qui pensent, eh bien écoutez, occupons-nous d'abord de Hong Kong. Malheureusement, si on regarde les conclusions du mouvement des parapluies, c'est que le fait que la Chine, le régime chinois ne bouge pas, fait que la démocratie, l'élection au suffrage universel du chef de l'exécutif est un rêve, celle des députés, de l'ensemble du conseil législatif est aussi un rêve, car Pékin ne bouge pas là-dessus et n'acceptera pas cette transformation démocratique. Mais cela a posé une autre question, et qui est une question d'ailleurs qui, là, tient aux générations. Les jeunes générations se posent la question de l'après-2047. Vous savez que la promesse de Pékin, c'est pas de changement pendant 50 ans. 97-2047. En 2047, les gens de ma génération, ils auront 100 ans ou ils seront morts. Hein. Mais les jeunes de la génération de Joshua, ils seront dans la force de l'âge. Donc évidemment, les jeunes de cette les gens de la génération des parapluies se posent la question de l'après 2047 et se disent, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça va rester un pays de système ou pas? Ou alors, il faut que nous allions de l'avant. Ce que pense très clairement Joshua Wong et son parti Demosisto.
In a few moments, the United Kingdom's responsibilities will pass.
Bientôt, les responsabilités du Royaume-Uni seront transférées à la République populaire de Chine. Hong Kong sera ainsi restituée à la Chine et, dans le cadre du un pays, deux systèmes, elle gardera une identité forte et constituera un partenaire international important pour de nombreux pays du monde. Mesdames et messieurs, la Chine assumera ce soir la responsabilité d'un lieu et d'un peuple qui comptent beaucoup pour nous tous.
Which matter greatly to us all.
C'était un extrait du discours du prince Charles à l'occasion donc de la rétrocession de Hong Kong à la Chine le 1er juillet 1997. Et donc, il parle donc de cette théorie, je ne sais pas comment il faut l'appeler, un pays, deux systèmes. Ouais. C'est un concept, on peut dire, qui a été théorisé par Deng Xiaoping en 1997, qu'il a repris dans le discours du prince Charles. Un pays, deux systèmes, est-ce que vous pouvez peut-être nous réexpliquer de quoi il s'agit?
C'est simple. Dorian Malovic. C'est simple. Hong Kong rejoint la mère patrie, mais un pays avec Hong Kong, mais deux systèmes. Un système pour le continent chinois, où les libertés n'ont pas le droit de citer, et une liberté, comme a dit Jean-Philippe, 50 ans, liberté d'expression, liberté de parole. Pendant 50 ans, rien ne changera à Hong Kong. Voilà, c'était ça l'idée. À l'origine, si je peux me permettre, sous ton contrôle, ce concept-là de Deng était d'abord, l'idée était de l'appliquer pour Taïwan. À l'origine, enfin, je veux dire, l'idée, c'était de dire, bon, bah, Taïwan, qui doit, elle aussi, ce pays rejoindre la mère patrie, on fera ça, à l'époque. Mais bon, comme il y a eu, 84, la signature avec les Britanniques, la rétrocession 97, un pays, deux systèmes, donc, certains pouvaient déjà en douter en se disant « Oui, la Chine, on peut pas lui faire confiance, elle tiendra jamais parole sur ce système-là ». Je crois que les Anglais ont quand même... Chris Patten, le dernier gouverneur anglais britannique, a essayé de tout faire pour essayer d'accélérer le processus démocratique. Mais à mon avis, ils n'ont pas fait assez ou trop tard. Donc, ce qui était laissé après 97, c'était compliqué de l'entrée dans... Enfin, la démocratisation après 97, c'était déjà un peu plus compliqué, sauf si Pékin tenait sa parole.
Jean-Philippe Béja.
Non, je dirais que Pékin, au cours de toute la négociation, pendant les années 80, a encouragé une forme de démocratisation. Rappelez-vous, dans les institutions mises en place par Pékin, le comité d'élaboration de la Basic Law, de la loi fondamentale, il y a tous les gens qui vont devenir les chefs du Parti démocratique. Il y a Martin Lee, il y a Sitowa, et tout ça, qui sont donc choisis par Pékin. Pékin, pour lutter contre le colonialisme britannique, prétend aussi qu'il va instaurer la démocratie. Alors, les négociations allaient vers une loi fondamentale relativement ouverte jusqu'à ce que arrive le mouvement pour la démocratie de 89. Oui. Et là, la constitution de 90 a été beaucoup plus difficile. Mais tout de même, à l'intérieur de cette constitution, ne soyons pas anachroniques, à l'intérieur de cette constitution, il y avait la promesse que le chef de l'exécutif serait élu au suffrage universel direct, que le Parlement serait de plus en plus démocratique. Donc, Pékin s'était engagé, c'est Pékin qui est revenu sur ses promesses. Ce n'est pas les Anglais qui ont signé un texte qui abandonnait toutes les libertés. Il y avait des garanties, normalement. Et je rappelle aussi que la loi fondamentale, la déclaration conjointe entre Pékin et Londres, est déposée aux Nations Unies. Donc tout le monde a une responsabilité dans pour faire appliquer cette formule, un pays, deux systèmes, qui effectivement avait été inventée pour Taïwan. Mais si vous voulez, au départ, tout le monde va jouer le jeu, hein, et dans les premières années, il faut bien dire que Pékin n'interviendra pas de façon intempestive dans les affaires intérieures de Hong Kong. C'est surtout depuis 2014 que c'est arrivé, et alors là par contre, de façon très rapide et très inquiétante.
Et est-ce que vous pensez que ces tentatives d'ingérence de Pékin sur Hong Kong pourraient faire naître ou raviver, je ne sais pas, des sentiments de patriotisme ou de nationalisme hongkongais, voire des sentiments anti-chinois et des mouvements tout simplement pro-séparatistes, pro-indépendantistes? On en est où de ces mouvements-là, Dorian Malovic?
Pardon, excusez-moi, c'est exactement ce que ça provoque. Et quand vous parlez de tentatives d'ingérence, c'est pas des tentatives d'ingérence, ce sont vraiment des ingérences si vous voulez. Non mais, je comprends qu'on soit prudent, mais là on n'est plus dans on essaie de financer voilà, on voit rien. Non, la Chine aujourd'hui, c'est plus la Chine de 84, quand on pouvait encore imaginer faire confiance à un système dont on connaissait pas trop l'avenir. Mais la création, attendez, d'un mouvement indépendantiste hongkongais, qui certes est minoritaire, enfin c'est une poignée, mais que ce mouvement-là puisse exister, c'est quand même le produit de ce qui se passe depuis quelques années à Hong Kong sur le je dirais l'étranglement des libertés à Hong Kong par Pékin, et aujourd'hui là l'identité hongkongaise, qu'il faut quand même rappeler, c'est que depuis 97 vous avez un accord entre Hong Kong et le continent qui autorise un certain nombre de continentaux à s'installer sur le territoire. Et vous avez aujourd'hui plus d'un million de continentaux qui sont installés sur le territoire depuis 97. Enfin, ça fait un million en tout aujourd'hui. Un million sur 7,5, ça fait beaucoup. Donc vous voyez que ça provoque des déséquilibres, une insatisfaction sociale chez beaucoup de jeunes. Je vous rappelle que vous avez le taux de, enfin, je veux dire, de natalité un des plus bas d'Asie à Hong Kong, parce que les jeunes ne peuvent pas se mettre ensemble, ne peuvent pas trouver d'appartement. Enfin, je veux dire, c'est compliqué, c'est trop cher, il n'y a pas de bâtiment d'HLM suffisant. Ça aussi, c'était dans le mécontentement dans la rue en 2014. Ça aussi, c'était important. C'était aussi ça derrière. Enfin, mais aujourd'hui, l'invasion continentale. Enfin, vous avez eu des surchauffes où on y avait vous aviez des dessins dans les journaux qui présentaient les Chinois continentaux comme des criquets qui s'abattaient sur Hong Kong, et ça déstabilisait énormément les prix, les universités. Il n'y a pas assez de place pour les locaux. Les Chinois arrivent, il faut payer. Enfin, tout ça. Constitue quelque chose qui, pour les Hongkongais, disent « moi je suis Hongkongais, à la limite je ne suis pas chinois ».
Jean-Philippe Béja, est-ce que vous faites un lien alors aussi entre les questions sociales que Dorian Malovic vient d'évoquer et une certaine aspiration peut-être à alors autonomie, indépendance, séparatisme, je ne sais pas comment il faut le dire, qui est là, qui existe dans la société hongkongaise.
Je voudrais quand même faire quelques remarques. Non, je crois qu'il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre l'immigration d'un million de personnes et l'invasion par les touristes. Les touristes, c'est quelque chose d'autre. Les protestations qui ont eu lieu sont surtout des protestations contre les touristes. Et effectivement, il y a eu à ce moment-là, y compris des protestations de type Front National, hein, de type on n'est plus chez nous, etc. Dehors les immigrés. Ça, c'est une chose. Et effectivement,
dehors,
ça
existe. Les Chinois,
mais oui,
les immigrés.
Bien sûr, dehors les Chinois, les gens
mais
de Chine.
C'est pareil.
Alors, à part ça, il est absolument pas prouvé que le million d'immigrés a changé la balance électorale. D'ailleurs, Joshua Wong le disait lui-même dans une interview de 2015. C'est pas vrai du tout. Le pourcentage reste toujours à 60%. Il n'y a aucune enquête qui ait lieu sur les gens nés en Chine et sur un certain nombre de députés localistes sont nés en Chine. Donc, je crois que là-dessus, il faut faire très attention. L'indépendance, c'est Si Weilang qui a créé le mouvement pour l'indépendance. Il a fait une intervention dans son discours sur l'état de l'Union en janvier 2014 en citant un journal de l'Université de Hong Kong qui parlait de la Hong Kong Nation, de la nation hongkongaise. Ce journal n'avait été lu que par 30 personnes. À partir de là, Pékin a embrayé sur ce danger de l'indépendance. Il y a effectivement une forte identité hongkongaise qui se manifeste de plus en plus par opposition aux gens du continent, mais ce n'est pas vrai qu'il y a un mouvement indépendantiste. Les indépendantistes ne représentent pratiquement rien. En revanche, ceux qui se posent la question de l'avenir de Hong Kong, ce qu'on appelle les localistes, et qui disent qu'il faut absolument avoir l'autodétermination, comme Joshua Wong, sont de plus en plus nombreux aujourd'hui.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon. Et tout de suite, direction Taïwan pour évoquer un autre mouvement de protestation contre Pékin, la révolution des tournesols.
After the news spread out, our government has signed an agreement.
Suite à la signature de cet accord entre le gouvernement et la Chine, toute la société était sous le choc. Le 17 mars, un député a déclaré que le Congrès avait voté sous l'accord sans délibération en seulement 13 secondes. Cette assemblée au Congrès était la plus stupide qu'on ait pu voir. On a demandé au gouvernement de réviser la procédure concernant tout échange de libre-échange entre Taïwan et la Chine. Notre groupe contribue à l'histoire de Taïwan. Nous défendons des valeurs qui sont importantes et essentielles pour notre peuple. On reçoit beaucoup de soutien de tous les coins de Taïwan.
Non à la vente de Taïwan à la Chine. C'est sur ce mot d'ordre, entre autres, que débute en 2014 une importante mobilisation à Taïwan. Les manifestants protestent contre un traité commercial censé permettre l'entrée d'investisseurs chinois dans le secteur des services de l'île. Ils sont alors près de 500 000 à descendre dans les rues pour protester contre ce qu'ils vivent comme une véritable ingérence de la part de Pékin. Alors quel bilan, 4 ans plus tard, de cette révolution des tournesols et quels échos, quelles filiations avec les mouvements démocrate à Hong Kong? Pour en parler, nous sommes au téléphone avec Stéphane Corcuff. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Lyon, ancien directeur du Centre de recherche français à Taipei. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, c'est vrai qu'il faut peut-être rappeler qu'à l'époque, à Taïwan, la mobilisation a démarré sur la question d'un traité commercial. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, à ce moment-là, les Taïwanais ont estimé, que leurs institutions démocratiques étaient en péril ou menacées?
Parce que les étudiants et les manifestants de la société civile, qui se sont les premiers élevés contre ce qui se passait, considéraient que le gouvernement de l'époque, donc du Parti nationaliste, le Kuomintang, et sous la présidence de Ma Ying-jeou, avait tout d'abord négocié avec les représentants chinois sans un mandat de l'Assemblée, ce qui pour le coup était l'habitude depuis le début de l'ouverture des relations avec la Chine dans les années 90, avait négocié sans aucune visibilité du contenu exact des accords, sans révéler les avantages et les inconvénients pour l'économie taïwanaise et sans que le Kuomintang ne soit prêt à faire ratifier cet accord par la représentation nationale. Et puis on peut peut-être rajouter un élément, c'est que cet accord-là, qui était le dernier d'une longue série qui avait été initiée donc dans les années 90, portait sur l'ouverture des deux économies au secteur des services, qui représentait en 2014, à l'époque du mouvement des tournesols, 70% de l'économie. Donc il s'agissait pour eux véritablement d'un cheval de Troie pour la Chine dans l'économie taïwanaise.
Si on comprend bien, est-ce que la crainte, c'était que ce traité crée une sorte de dépendance économique de Taïwan envers la Chine et que cette dépendance pourrait ensuite peser sur des dimensions plus politiques?
Dépendance économique, oui, certainement, mais ce n'est pas cet accord-là qui l'aurait vraiment fait naître, elle l'aurait peut-être approfondi. Mais dépendance peut-être plus gravement dans l'ordre de la liberté de penser, dans la mesure où le secteur des services, ça touche énormément de choses, mais notamment le secteur de l'information, le secteur de l'édition, jusqu'aux imprimeries par exemple. Et donc l'un des arguments qui était employé, c'était qu'il n'était pas envisageable de laisser les maisons d'édition de Taïwan, qui continuent aujourd'hui à publier comme Hong Kong, et surtout quand Hong Kong ne peut pas le faire, les penseurs chinois qui veulent librement écrire en chinois sur ce qui se passe en Chine, eh bien que il n'était pas possible d'imaginer que ces maisons d'édition puissent être un jour contrôlées par la Chine avec des entrées dans leurs capitaux.
Alors, à l'époque, donc, des manifestants, beaucoup de jeunes gens, des leaders étudiants également, une occupation assez importante des espaces publics. Et c'est vrai que les similitudes sont assez frappantes avec la mobilisation des parapluies à Hong Kong. Est-ce que pour vous, il s'agit d'un mouvement de même nature?
Alors la comparaison, c'est toujours l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein. Moi, j'ai plutôt envie de dire que sur un plan disons des détails, qu'on soit historien, politiste ou sociologue, on peut voir énormément de différences. Mais sur le plan du fond, du mouvement global géopolitique, évidemment, il s'agit d'une réponse adaptée à la situation locale, à la même question, au même défi. Les différences, elles sont assez nombreuses et parfois de taille. Le mouvement de Taïwan a été bref, 3 semaines, mais très efficace. Il a réussi à stopper, à arrêter jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, les négociations avec la Chine. Et dans le mouvement Occupy qui commence en 2010 dans le monde et qui a eu des milliers de mouvements petits et grands, c'est à mon avis le seul qui ait obtenu gain de cause, son objectif atteint. Et quel objectif face à la toute puissante Chine? Des différences, on peut en trouver beaucoup, hein. Celle-ci, c'est que le mouvement taïwanais a réussi et le mouvement hongkongais, en tout cas, n'a pas obtenu gain de cause sur ses revendications les plus claires, même si ça entraîner des mouvements. Maintenant, comme je le disais, je crois que effectivement, si on voit les choses sous un angle géopolitique global, il est évident que dans ces deux cas, les marges de la Chine, qui ne se pensent pas du tout elles comme marges, mais qui considèrent que la Chine les voit comme telles, se rebellent en parlant de leur autonomie, de leur indépendance, de leur liberté d'agir. Et même si, comme on vient de l'entendre avec M. Béja, il n'y a pas forcément un mouvement indépendantiste à Hong Kong, à Taïwan c'est clairement le cas, ça fait longtemps qu'on se voit comme une nation et qu'on entend bien être considéré comme tel.
C'est vrai qu'en 2012, la présidente de Taïwan avait, dans une interview au Monde, elle avait déclaré qu'elle ne voulait pas que Taïwan devienne un deuxième Hong Kong. Est-ce qu'il s'agissait d'effrayer les esprits à ce moment-là, ou est-ce que ce risque est réel?
C'était une phrase politique qu'on peut comprendre dans le contexte géopolitique des sociétés chinophones. Le message était, tout le monde l'a bien compris, il est clair, c'est on ne veut pas perdre notre indépendance. Cela dit, il ne faut pas oublier que cette comparaison est une déclaration politique dans la mesure sur le plan légal, historique. Hong Kong et Taïwan sont des situations extrêmement différentes. Hong Kong était une colonie britannique et en 1984, quand Margaret Thatcher et Deng Xiaoping ont négocié l'accord qui allait amener à la rétrocession de 1997, les Hongkongais n'ont pas été consultés. Personne n'a même véritablement considéré leur poser la question. Alors qu'à Taïwan, évidemment, il s'agit d'un État indépendant et souverain sous le nom de la République de Chine, qui est le reste, on va dire, historique de cette République chinoise fondée en Chine en 1912 et qui aujourd'hui s'est totalement taïwanisée et entend bien, là encore, rappeler qu'elle est indépendante.
Vous l'avez rappelé, la révolution des tournesols a été plutôt victorieuse puisqu'elle s'est soldée par le retrait de ce traité commercial qui inquiétait tant les Taïwanais. Et puis il y a eu aussi une chute du parti, le Kuomintang, le parti pro-chinois. Est-ce que ça veut dire qu'actuellement la Chine a perdu un peu la main sur Taïwan ?
Oui, alors ça a été une déconfiture totale du parti nationaliste chinois en 2016 aux élections présidentielles et législatives suivantes. Alors pro-chinois, le terme est un peu fort, mais je comprends qu'on l'emploie. Disons que le Kuomintang est anti et contre l'idée d'une nation taïwanaise indépendante et veut préserver les possibilités futures d'une réunification des deux rives. Maintenant, pro-chinois, tout parti au pouvoir à Taïwan, qu'il soit le Kuomintang plutôt pour des bonnes relations avec la Chine ou les autres partis d'opposition, sont obligés de gérer Taïwan au centre et de maintenir coûte que coûte la souveraineté de la République. Voilà. Ceci dit, effectivement, on peut parler d'une vraie déconfiture pour le camp unificateur à l'époque. Et si, comme tout le monde l'a sans doute entendu, les élections régionales qui ont eu lieu en novembre de cette année à Taïwan ont redonné courage à ce parti qui a remporté une victoire par rapport au parti démocrate progressiste au pouvoir depuis les tournesols. Il faut bien se garder d'imaginer que le Kuomintang est prêt à vendre Taïwan à la Chine aujourd'hui, surtout quand on voit ce que lui a coûté le mouvement des tournesols.
Alors, retour en plateau avec nos invités Jean-Philippe Béja et Dorian Malovic. Qu'est-ce que vous pensez, vous, l'un et l'autre, donc de cette comparaison ? Il est vrai qu'on fait régulièrement entre Taïwan et Hong Kong. Stéphane Gorcuff parlait des marges de la Chine. On peut peut-être dire aussi les satellites, Jean-Philippe Béja.
Non, satellites, je crois qu'il
a raison. C'est un mot qu'on voit, des fois.
Il a raison de parler des marges. Je pense que la différence, effectivement, le mouvement des tournesols l'a emporté, mais le mouvement des tournesols était confronté au gouvernement taïwanais.
Local,
qui était élu par les Taïwanais. Donc, dans ces conditions, on a pu le renverser. Le mouvement des tournesols, bien sûr, était opposé se battait contre le gouvernement de Hong Kong, mais derrière le gouvernement de Hong Kong, il y a plus que l'ombre. Il y a un gouvernement de Pékin qui, rappelons-le, un an plus tard, va enlever en pleine rue des éditeurs hongkongais parce que il publie des livres qui sont critiques sur la Chine. Hong Kong a toujours été dans l'histoire une base de réflexion sur la Chine. Alors ça, c'est maintenant c'est Taïwan qui devient effectivement les éditions, les gens qui veulent publier des textes critiques sur la Chine. Maintenant, ont de plus en plus de mal à le faire à Hong Kong. À Hong Kong, à l'aéroport de Hong Kong, on ne trouve plus les livres critiques sur la Chine, alors qu'avant il y en avait des piles entières. Et on doit le faire à Taïwan. Donc il y a quand même des éléments qui sont très proches. D'abord, le mouvement des parapluies a suivi le mouvement des tournesols et Joshua Wong et ses camarades sont allés à Taïwan aussi pour voir un peu comment ça se passait. Et depuis, il y a des relations entre ces mouvements de Hong Kong et de Taïwan. Car ils sentent, évidemment, la situation, Stéphane avait tout à fait raison de le dire, est très différente, mais quand même, ce sont des gens qui sont menacés par la Chine, plus ou moins directement, pour Hong Kong, très directement, pour Taïwan, un petit peu plus à terme, mais la situation n'est pas non plus complètement assurée.
Stéphane Gorcuff, est-ce que vous avez pu, vous, observer des liens entre, au niveau des militants, entre les jeunes Hongkongais et les jeunes Taïwanais, des échanges, des filiations, même dans la manière de manifester, dans la manière de militer ?
Oui, alors la réponse, elle est en fait très simple, c'était un grand naturel, puisqu'on vit à l'époque des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et Hong Kong comme Taïwan sont des sociétés hyper connectées par tous les médias sociaux qu'on peut imaginer, donc les liens, disons, existaient déjà avant, ont été extraordinairement, ils ont développé avec ces deux mouvements, hein, comme ça vient d'être rappelé par Jean-Philippe Béja, et donc dans le sens, dans l'autre sens, c'est arrivé aussi, c'est-à-dire qu'on a des militants des Tournesols qui sont allés à Hong Kong, pas que des militants étudiants, mais aussi des journalistes, des universitaires, et avant d'ailleurs que les parapluies ne commencent, et je me rappelle que en juin 2014, juste après la fin des Tournesols et avant le début des parapluies, trois militants taïwanais se sont vus refuser l'entrée à Hong Kong parce qu'ils ont réalisé d'un coup que, et c'est la police des frontières qui leur disait, que leur passeport de compatriotes taïwanais avait été mystérieusement tout d'un coup aboli. Donc les liens sont ténus, se sont poursuivis depuis, mais je pense que, pour être juste sur la situation, que ce soit agréable à entendre ou pas, ça reste quand même des liens de militants. Je ne suis pas absolument sûr que la population taïwanaise, qui aime la démocratie forcément, se sent particulièrement concernée par ce qui se passe à Hong Kong. On peut le déplorer. Ce que j'observe, c'est que pendant les manifestations très longues des parapluies à Hong Kong, les Taïwanais, oui, étaient très informés, on en parlait à la télé en permanence, mais ils ne se manifestaient, ils ne se mobilisaient pas beaucoup pour montrer des signes apparents de soutien manifeste.
Eh bien, merci beaucoup Stéphane Corcuff. Je rappelle, vous êtes maître de conférence à Sciences Po Lyon, ancien directeur du Centre de Recherche Français à Taipei. Merci beaucoup sur cet éclairage sur Taïwan. Il nous reste 2 minutes. Dorian Malovic, je voudrais quand même vous demander de revenir sur Joshua Wong. On a dit qu'il attend son procès pour avril 2019. Ouais, Qu'est-ce qu'il risque exactement?
Il risque la prison. Il risque
combien d'années? On a une idée de ça?
Par rapport aux charges, c'est un peu compliqué parce que même là, les vétérans, ils risquent 7 ans, mais lui, il a peur d'abord. Il risque d'aller en prison. Il risque de ne plus pouvoir se présenter parce que ce qui se passe en ce moment, c'est quand même au niveau politique, c'est que les jeunes députés, on les écarte de l'Assemblée, on les empêche de pouvoir se présenter à d'autres scrutins. Et c'est ça qui est quand même beaucoup plus inquiétant, c'est qu'il y a des ingérences, je tiens à rappeler, physiques au-delà de Joshua, avec qui j'ai parlé de cette histoire de la gare, cette énorme gare au cœur de Hong Kong qui aujourd'hui connecte directement en train 44 villes du continent chinois, et le quart de cette gare est maintenant territoire chinois avec des douaniers qui sont là et des gens de l'immigration continentale, et qu'une fois que vous passez cette limite, vous êtes sous juridiction chinoise, et dans le train, même en étant sur le territoire de Hong Kong, vous êtes en Chine. Et ça, c'est une nouvelle violation de ce qui est cette loi fondamentale qui avait été négociée, mais comme je dis, les promesses n'ont pas été tenues. Et le pont qui relie la Chine, Macao et Hong Kong fait partie de cette stratégie qui veut totalement réunifier, je dis, au continent toute cette zone pour faire oublier à jamais que ce furent des colonies étrangères.
Jean-Philippe Béja, il reste moins d'une minute. Les autorités aujourd'hui, elles sont parvenues à éteindre la contestation à Hong Kong?
Momentanément, oui, si on regarde ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je fais confiance à Hong Kong car l'histoire a prouvé que depuis 1974, quand on croit qu'il n'y a plus aucun espoir, la population se lève pour défendre ses droits. Alors le problème, c'est, y parviendra-t-elle? Mais je crois qu'il y aura d'autres mouvements, sans aucun doute.
到了这一晚， 更怕未表白内心呼喊。 站在前方。
Tenez le parapluie, c'est une chanson de la révolte des parapluies. C'est une chanson qui a été autoproduite, composée par Lin Si, c'est ça, Jean-Philippe Béja, vous me corrigez. Tenez le parapluie en cantonais.
Oh non, me faites pas parler cantonais, je ne le sais pas.
Merci infiniment à tous les deux, en tout cas, d'avoir participé à cette émission. Merci Jean-Philippe Béja, je rappelle, politologue, directeur de recherche aux séries à Sciences Po, auteur de « À la recherche du nombre chinoise, le mouvement pour la démocratie en Chine 1919-2004 », c'est aux éditions du Seuil. Merci infiniment à vous également, Dorian Malovic, chef du service Asie au quotidien La Croix, ancien correspondant à Hong Kong. Et on vous doit donc Hong Kong, un destin chinois, c'était chez Bayard.
任暴雨下，志向未倒下，雨伞是一朵朵的花。 的抚养三。